Et oui, en écho à notre radio dont nous nous penchons ce matin sur les finances de l'Église de France. Quel est l'impact du confinement sur ses comptes alors que les célébrations en public ne sont plus autorisées et que les quêtes ne peuvent donc plus avoir lieu? Bonjour Ambroise Laurent.
Bonjour Isabelle.
Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France en charge des questions économiques. Alors, cette première question, je vais vous la poser sans détour. Dans quel état se trouvent les finances de l'Église au moment où nous nous parlons? Est-ce que vous avez des raisons d'être inquiet?
Oui, on a des raisons d'être inquiet. C'est un état fragile, un état difficile. Pour vous donner un ou deux chiffres pour mesurer la situation, l'Église ne vit que de dons. L'Église en France, c'est environ 600 millions d'euros de dons, donc c'est une somme très impressionnante parce que les catholiques sont très généreux. 600 millions de dons pour faire vivre l'Église et le premier confinement, c'est une perte de 60 millions et le deuxième que nous vivons actuellement, c'est environ 30. Donc on n'est pas loin de perdre 15 à 20% de nos recettes, c'est-à-dire 100 millions.
100 millions de manques à gagner à cause de ce confinement, 600 millions d'euros, ça c'est le budget de l'Église de France?
Oui, c'est ça. C'est la somme des budgets de toutes les paroisses et de tous les diocèses. Alors ça n'intègre pas plein de choses, ça n'intègre pas toute l'action de charité, toutes les actions par les mouvements, le secours catholique, l'aide en détresse, l'aide à l'Église en détresse, ça n'intègre pas tout ce qui est fait dans les outils de communication, que ce soit votre radio, j'entends que vous faites une campagne de dons ce matin.
Oui.
Voilà, toutes ces dépenses, les mouvements, de tout ce qui gravite autour de l'Église n'est pas intégré. Là, on parle vraiment du cœur des paroisses et des diocèses, du cœur de l'Église qui enseigne, qui célèbre Jésus-Christ.
Alors l'impact du confinement, on l'a dit, on l'imagine, ce sont les quêtes qui représentent un manque à gagner. Quelles sont les autres ressources de l'Église?
L'Église a quatre grandes ressources. Il y a deux grandes ressources qui sont le denier d'une part et les quêtes d'autre part. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle le casuel, c'est-à-dire ce qui est donné à l'occasion des baptêmes, des mariages, des funérailles, et puis les offrandes de messe. Voilà, vous avez donc ces quatre grandes ressources auxquelles viennent s'ajouter les legs. Et les legs prennent une place de plus en plus significative. Mais les deux grandes ressources essentielles, c'est le denier. Le denier, c'est environ 250 millions. Et les quêtes, c'est environ presque 200 millions. Et ce qui est touché actuellement, ce sont toutes les ressources qui sont liées à la liturgie. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus de liturgie, il n'y a plus de quêtes, il n'y a plus de casuels, il n'y a plus d'offrandes de messe. Ou en tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et donc, c'est ça qui est touché. Chaque fois qu'un dimanche passe sans célébration, c'est 3 à 4 millions qui manquent pour les paroisses de notre Église.
3 à 4 millions en manquant à chaque célébration, effectivement, dit comme ça, ça fait énorme. Est-ce que ça, c'est pour l'état général des finances de l'Église de France? Comment ça se passe? Comment sont organisées les finances? Est-ce que c'est centralisé? Est-ce que c'est chaque diocèse qui gère son portefeuille? Comment ça se passe?
Ça se passe sur un principe fondamental dans l'Église, qui est la subsidiarité. Ça se passe au plus près de ce que nous vivons, au plus près de ce que nous célébrons. Donc ça se passe dans les paroisses. Ça se passe dans les paroisses, c'est là que se font les appels au denier, c'est là que se font les mariages, c'est là que se font les messes célébrées à des intentions, c'est là que chaque dimanche, chaque célébration, la quête est faite à l'offertoire. Et donc, quand on parle des finances de l'Église, c'est la somme des finances de toutes les paroisses. Avec le point important que les diocèses regroupent les paroisses en doyenné et puis au niveau du diocèse et voilà, c'est là l'entité économique en droit français, ce n'est pas la paroisse, c'est le diocèse, mais en droit canonique, c'est la paroisse.
Alors, on a entendu des mots difficiles, des diocèses qui pourraient être dans le rouge, au bord de la faillite, de la banqueroute. Est-ce si différent d'un diocèse à l'autre?
Alors, je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas de diocèse au bord de la banqueroute. Ça, c'est voilà, c'est excessif. Il y a des diocèses qui sont en difficulté, ça c'est sûr, parce qu'ils ont
Combien?
des déficits de fonctionnement. Or, il y en a environ sur 100 diocèses en France, on a environ une quinzaine de diocèses qui sont vraiment en difficulté. Qui sont vraiment en difficulté, c'est-à-dire qu'ils doivent puiser en permanence dans les réserves et ils ont de moins en moins de réserves. Voilà. Et effectivement, il y a des différences assez importantes entre diocèses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément les diocèses qui sont les plus peuplés ou les plus où il y a le plus de paroisses, où il y a le plus de prêtres, qui sont les diocèses où la situation est la meilleure. Il y a des diocèses
Oui.
qui sont ruraux et qui sont parfaitement à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment à la fois fait des campagnes et sensibilisé leurs fidèles à la nécessité de faire vivre l'Église et ils ont des charges qui sont restreintes, réduites. Voilà. Donc il y a des voilà, il y a des différences effectivement entre diocèses, pas forcément là où on les attend.
Et alors, un diocèse sans être en banqueroute ou en faillite, un diocèse en difficulté, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a un système, vous avez parlé de subsidiarité, est-ce qu'il y a un système de solidarité les uns envers les autres? Quelles conséquences
Eh bien,
immédiates?
cette solidarité, elle existe, mais elle est limitée. C'est un peu comme la solidarité entre paroisses. Elle existe, elle est gérée par le diocèse, mais elle est limitée. C'est-à-dire que chaque communauté doit se supporter elle-même, doit se financer elle-même. Alors évidemment, il y a des paroisses qui par exemple, sont propriétaires de leur église parce que c'est des paroisses, je ne sais pas, par exemple à Blagnac, hein, dans votre région ou dans les banlieues qui ont été construites après 1905 ou toutes les zones urbaines. Là, c'est des églises qui appartiennent souvent au diocèse ou à la paroisse. Et c'est vrai que ces paroisses doivent être soutenues pour leur immobilier. Alors que d'autres, voilà, l'immobilier appartient à la cathédrale de Rodez, elle appartient à l'État. Et donc, il n'y a pas les mêmes charges. Donc, il y a des systèmes de solidarité, mais au fond, entre diocèses, la solidarité est liée. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des structures de diocèses qui sont pauvres ou petits qui sont pauvres. Hein, voilà. Par
On a
exemple,
bien compris.
récemment, à Montauban, il y avait des difficultés, l'action très courageuse qui a été menée, difficile, douloureuse, parce qu'il a fallu ne pas renouveler, même se séparer de quelques laïcs en mission, était vraiment nécessaire pour remettre les choses d'aplomb. Hein. Donc c'est
Et c'est
vraiment
ça, et
à
c'est ça la
chacun de prendre ses
conséquence.
responsabilités.
C'est ça
Pardon?
la conséquence. Hein. Un diocèse qui va mal, c'est probablement des licenciements, des contraintes qui ne peuvent pas être reconduites. On parle de choses très prosaïques, mais il faut être à certains moments pragmatique, hein.
Oui, alors c'est à la fois effectivement, c'est potentiellement des conséquences sur les laïcs en mission ou les laïcs qui travaillent dans les diocèses. Il y en a quand même 5 000 en France, hein, c'est pas négligeable. Mais c'est aussi, par exemple, des regroupements de paroisses ou bien le fait que bon, quand on a une salle paroissiale qu'on utilise une fois par semaine, c'est pas forcément le bon emploi parce que ça génère des charges de fonctionnement, des charges de travaux, des charges d'assurance. Et donc, le premier poste de dépense, paradoxalement, pour l'Église en France, ce n'est pas les prêtres, les traitements des prêtres ou le traitement des laïcs. Hein. Ça fait environ 35%. Le premier poste de dépense, c'est l'immobilier, 40%. Donc, quand vous prenez l'immobilier plus les prêtres plus les laïcs, vous avez déjà pratiquement 70% des dépenses. Hein. Donc, vous voyez que le premier effort, c'est un effort de réflexion. Où est-ce que nous mettons nos moyens? Où est-ce que nous nous regroupons? Comment nous ajustons nos charges à nos ressources? Mais le deuxième point très important, c'est est-ce que nous avons pris conscience et fait l'appel aux ressources? Hein? Et ça, c'est un point clé. Les ressources sont structurellement quelque chose qui peut varier en fonction du nombre de donateurs et de la générosité des donateurs. Et ça, c'est aussi un enjeu très important. Et c'est pas uniquement un enjeu matériel. C'est pas uniquement, on n'appelle pas uniquement à donner à Rodez, à Lourdes ou à Auch pour soutenir l'Église. Chaque donateur fait, quand il fait un don à l'Église, c'est pas tout à fait comme un don au Secours catholique au Resto du Cœur, hein, ou même à Radio Présence. Le don à l'Église, il porte une signification spirituelle. Et ça, c'est très
Laquelle?
important. Quand vous,
Laquelle?
voilà, ah ben, ça dépend. quand vous donnez à la quête, c'est une signification liturgique. La quête, c'est vous, votre don, c'est ce que vous apportez à, en participation à l'offertoire. Et donc, c'est votre propre participation à ce qui va se passer sur la table eucharistique. Le denier, c'est complètement différent. Le denier, c'est l'offrande au temple. Hein. C'est, vous vous souvenez, Jésus qui remarque la femme qui verse deux piécettes dans le tronc du temple, et lui-même, on l'interpelle, est-ce que toi, tu donnes au temple? Et Jésus dit, oui, moi, je donne au temple. Et donc, c'est la dîme d'Abraham. J'ai tout reçu, je donne au temple. Je donne parce que je donne à Dieu en retour. Vous voyez, le sens est différent. Quand vous célébrez un mariage, le sens de votre casuel, il est lié aux noces de Cana. C'est l'expression d'une joie. Hein, quand vous célébrez un baptême, quand les parents du Christ sont allés au temple pour la circoncision de Jésus, ils ont apporté deux colombes. Vous voyez, à chaque fois, on peut rattacher le don qu'on fait à une véritable action spirituelle. Et la conséquence...
C'est important, hein, la différence que vous faites, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend un petit discours qui, d'un point de vue pastoral, est compliqué à tenir, je trouve, cette idée qu'il faut revenir à l'Église pour remplir les caisses.
Oui, alors c'est totalement clair que il ne s'agit pas de revenir à l'Église pour revenir à les caisses. Il s'agit de revenir à l'Église parce que c'est là où entre frères on célèbre la résurrection et la vie. C'est ça qui t'importe. Et ça veut dire aussi, c'est un point très important, que donner à l'Église, c'est pas réservé aux gens qui sont des piliers de sacristie. Et qu'il y a plein de diocèses dans lesquels des gens qui ne viennent pas fréquemment à l'église ou pas du tout, ou qui viennent juste par exemple pour des funérailles ou pour un baptême, ou qui n'y viennent pas du tout, ils tiennent à donner à l'église. Et leur don, c'est pas juste une cotisation ou un signe d'appartenance. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et ça, c'est très très important pour faire renaître une pastorale du don à l'Église qui soit ancré dans l'essentiel, c'est-à-dire la louange, la reconnaissance, l'intercession, la prière.
Merci pour ces précisions effectivement très importantes. Ambroise Laurent, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes le grand argentier de l'Église de France. On fait un état des lieux des finances. Vous nous avez dit que vous aviez des raisons d'être inquiet compte tenu de l'ampleur du manque à gagner à cause du confinement. Au-delà de la quête, au-delà du don que vous appelez effectivement de vos vœux, de quels moyens vous disposez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre? Je crois qu'il y a des quêtes en ligne notamment, hein.
Alors, de fait, dans cette situation un peu particulière du confinement, oui, il y a des quêtes en ligne qui s'organisent dans les paroisses et même au niveau national. Et vous avez la possibilité, en allant sur quête.catholique.fr, à chaque fois que vous regardez la messe dans la télévision ou sur YouTube, eh bien, c'est une manière, en allant sur quête.catholique.fr et en sélectionnant votre paroisse, de faire un acte qui n'est pas un acte juste de soutien. C'est un acte liturgique. Donc, vous participez à la messe. C'est une manière de participer à la messe. Vous la regardez et au moment de l'offertoire ou à la fin de la messe, eh bien, vous apportez votre participation à ce qui s'est noué sur la table eucharistique. Donc, quête.catholique.fr, ça, c'est la quête en ligne. Bon, il ne faut pas en attendre des miracles parce que, de fait, nous sommes une communauté de croyants qui se rassemblent et c'est à ce moment-là qu'en fait, on donne le plus facilement. Hein. Donc, la quête en ligne, par exemple, pour le premier confinement, ça a représenté 5 à 10% du total de la quête. Sauf que dans certains diocèses, ça a quand même représenté 30%. Hein. Donc, ça dépend beaucoup de la mobilisation des paroisses.
Est-ce que l'État peut être une aide?
Alors, je vais y venir, mais l'autre chose qui est importante, c'est que nous sommes sur la fin de l'année. C'est le moment où 40% du denier est collecté. Et donc, c'est clair que nous comptons sur une forte mobilisation autour du denier en cette fin d'année. Alors, l'État, nous sommes dans un État laïque, un régime de séparation, et donc l'État ne vient pas en aide au culte. Zéro,
pas de PGE.
Zéro,
aucune subvention. Pas de PGE, pas de chômage partiel pour les prêtres.
Ah, alors attendez. Là, il y a deux choses un peu différentes. Pas de subvention directe au culte, mais l'État ne doit faire et ne fait aucune discrimination. Et donc, il se trouve qu'il aide tous les employeurs, et par l'activité partielle ou par le prêt garanti par l'État, hein, qui est garanti d'ailleurs à la banque qui prête à un diocèse, eh bien, l'État soutient l'emploi. Et donc, il soutient l'emploi aussi dans toutes les associations et dans les associations diocésaines. Et donc, il y a
un immense merci.
Effectivement.
Un immense merci. Malheureusement, nous devons couper. Un immense merci pour vos explications, Ambroise Laurent, sur la situation de l'Église de France. L'heure est grave, on l'a bien compris. Vous êtes secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, en charge des questions économiques. Merci pour cet entretien.
Je vous en prie. À bientôt.